Chapitre 14. Le doudou de Lulu. En se réveillant, Julie met quelques instants à reprendre pied dans le réel, sans reconnaître les lieux. Allongée dans le grand lit d'une chambre neutre à la décoration moderne, elle n'est pas à l'hôpital, assurément. Elle se lève pour ouvrir les rideaux et, regarder par la fenêtre, aperçoit Paul qui revient de la boîte aux lettres avec le journal du matin. Chez lui, donc. Elle observe les vêtements dans lesquels elle a dormi, sa petite culotte surmontée d'un large t-shirt d'homme. Elle ne se souvient de rien, pas même du moment où Paul l'a déposée dans ce lit. En se retournant, Julie aperçoit son image dans le miroir, effrayante. Ses yeux sont rouges, les paupières gonflées, les cernes accentuées. Un hématome sur le front, seul stigmate de l'accident. C'est Lulu qui a tout pris. La grosse valise rouge repose au bout du lit. Elle attrape quelques affaires et file dans la salle de bain attenante à la chambre pour prendre une douche brûlante, espérant y trouver un effet lisseur et décongestionnant. Espoir déçu quelques minutes plus tard. Elle n'essaie même pas le maquillage, des fois que ça coule à nouveau. Ça coulera encore. Julie descend alors dans la cuisine, où elle entend des bruits de couverts. Paul s'affaire autour de la table du petit déjeuner. « Tu as dormi ?» lui demande l'homme en déposant un baiser sur son front. « C'est toi qui m'as déshabillée ?»« C'est pas le chat, » lui répond-il en désignant un gros matou gris aux poils épais qui dort sur un coussin dans un coin de la cuisine. « Ne t'inquiète pas, » ajoute-t-il en la voyant gênée. « Je n'ai déposé sur ton corps qu'un regard bienveillant. Tu étais exténuée en quittant l'hôpital. » « J'aimerais y retourner. »« Je vais t'y emmener. Mange quelque chose avant. »« J'ai pas faim. »« Bois au moins un thé sucré. »« Demain, je passerai t'acheter un téléphone. Tu en auras besoin. »« Non, non, je peux pas payer. »« Tais-toi. Tout ça, c'est moi qui gère, ok » dit-il, agacé. « Ne t'énerve pas, Paul. » le supplie-t-elle en retenant sa respiration. Paul se retourne alors et appuie ses deux mains sur l'évier en regardant par la fenêtre. Julie voit quelques soubresauts le secouer. Elle s'approche alors et se faufile entre l'évier et lui. Il la prend dans les bras et se met à pleurer. « C'est ma faute. Si seulement j'avais réagi autrement. »« Tu pouvais ?»« Tout est allé trop vite. J'ai juste eu le temps de comprendre ce qui se passait et déjà la camionnette nous percutait. Ce salaud n'est même plus là pour voir les dégâts qu'il a causés. »«
Pourquoi tu as lavé le doudou de Lulu ?»
lui demande Julie en apercevant celui-ci séché sur le radiateur de la cuisine. Il était dans un sale état. Ne m'en demande pas plus, Julie, c'est mieux. Il reste quelques instants ainsi, puis avale rapidement un thé chaud avant de partir pour l'hôpital où Paul laisse Julie à l'entrée du service pédiatrique pour emprunter de son côté un autre escalier et prendre des nouvelles de Jérôme. Ludovic a été transféré au petit matin en réanimation. Le décor est agréable. Des couleurs apaisantes, des tableaux au mur. Malgré le bruit permanent des machines, l'ambiance est calme, presque joyeuse, en tout cas comme si la vie était normale ici aussi. L'une des deux infirmières a le sourire aux lèvres. Son dynamisme étonne Julie dans un premier temps. Travailler dans un service comme celui-ci semble tellement difficile. Mais en arrivant dans la chambre, elle se rend compte que cette joie de vivre est presque contagieuse. Elle n'y croit pas du tout, mais veut bien risquer la contamination.
« Je pourrais rencontrer un médecin pour parler un peu de lui ?»«
Oui, bien sûr. Vous rencontrerez le docteur Lagarde, c'est le chef de service. Il arrive à 9h, ils sont en réunion en ce moment. » Après avoir rapidement visité le service, Julie retourne dans la chambre de Ludovic, approche le petit fauteuil tout près du lit et s'y installe. Elle prend sa main molle et la serre fort en lui caressant les cheveux. Une grosse suture traverse ses sourcils. D'autres petites plaies ont été soignées. Julie regarde tous les fils qui convergent vers son petit. L'infirmière entre dans la chambre avec un plateau dans la main. Elle saisit une des seringues et la remplace par une autre. Elle dégage du bien-être, comme les effluves d'un parfum. On pourrait presque voir des petites fleurs qui tourbillonnent autour d'elle. Elle répond aux questions que Julie lui pose et repart quelques instants plus tard en lui souriant gentiment. Ça fait du bien. Quelques minutes plus tard, un médecin frappe à la porte, puis entre dans la chambre. Il lui explique à nouveau la situation. À force de l'entendre, elle commence à comprendre. « Y a-t-il des signes avant-coureurs qui nous préviendront quand il sortira du coma ?»« Oui et non. Il peut se réveiller spontanément, sans que l'on s'y attende. »«
Et en attendant, on peut faire quelque chose pour l'aider ?»« Oui, il faut lui parler, le toucher, le stimuler, en lui rappelant des souvenirs. J'encourage les personnes de son entourage qui comptent pour lui à venir le voir pour qu'il les entende aussi, même les frères et sœurs. Il n'en a pas. Alors les grands-parents, la nounou, etc. Et ses jambes? Là aussi, nous ne pouvons pas encore nous prononcer. Le type de lésion qui a touché la moelle épinière de Ludovic est généralement réversible. Tout dépend du temps qu'il passe dans le coma et de sa volonté. Nous préférons être assez pessimistes pour que vous vous attendiez au pire, mais nous ferons tout pour qu'il lui arrive le meilleur.
Le meilleur nous ramènera à la situation avant l'accident?
Quand on s'attend au pire, le moins pire a une saveur toute particulière que vous dégusterez avec plaisir, même si ce n'est pas le meilleur. Par contre, nous ne savons pas combien de temps il va rester ici. Il est important que vous vous préserviez, et en particulier que vous ne perdiez pas votre travail. Je crois que vous êtes seul pour l'élever. L'assistante sociale du service viendra vous voir, mais les allocations que vous recevrez ne sont pas suffisantes pour vivre. Et puis, il faut voir autre chose, vous aérer, vous changer les idées, sinon vous ne tiendrez pas. D'autres personnes pourront venir le voir?
Oui, je pense.
C'est bien. Appuyez-vous sur elle. Julie passe le reste de la matinée auprès de Ludovic. Elle dépose son doudou encore un peu humide sous l'une de ses mains. Elle lui parle de ses copains d'école, de la maison, de ses jouets, du temps qu'il fait dehors, de ce qu'elle voit par la fenêtre. Elle fait des pauses. Elle fouille dans son sac pour y chercher la petite boule en bois de santal que son professeur d'art plastique lui avait offerte quand elle était au collège, alors qu'elle s'était particulièrement impliquée dans un projet sur le travail du bois. Une petite boule de 2 ou 3 centimètres de diamètre, aux contours irréguliers, mais d'une douceur incroyable, à force d'être palpée, manipulée, serrée. Elle ne l'a pas quittée depuis. Elle l'a saisie et la serre fort dans sa main. Il faut bien se raccrocher à quelque chose. En fin de matinée, le besoin d'air frais se fait sentir. Julie sort prendre une bouffée d'oxygène. Le temps est magnifique dehors. Froid, sec et lumineux. Un été indien. Les pompiers viennent de se garer devant l'accueil des urgences pédiatriques. Julie tressaille. Après quelques minutes, elle préfère retourner auprès de son fils. Elle passe devant le kiosque à journaux de l'hôpital. Le quotidien local a fait un gros titre de l'accident. Julie l'achète. Un terrible accident de voiture dans la nuit d'hier, impliquant une camionnette et un 4x4 à bord duquel une famille revenait de vacances. Encore une fois, l'alcool semble responsable de la collision. Le chauffeur de la camionnette, mort sur le coup, était ivre avec 3,54 g d'alcool dans le sang. Il a emprunté l'autoroute à contresens et le chauffeur du 4x4 n'a pu l'éviter. Si 2 adultes en sont sortis indemnes, le bilan est plus sombre pour le 3e passager, un médecin de 33 ans, souffrant de nombreuses fractures à la jambe, mais surtout pour l'enfant de 3 ans qui voyageait avec eux. Plongé dans le coma, les médecins sont réservés sur son pronostic vital. Julie chiffonne violemment le journal et le jette dans une poubelle, comme si cela allait effacer cette lecture insoutenable. C'est mal connaître Lulu, il n'est pas du genre à baisser les bras. Il montrera aux journalistes qu'il n'a pas le droit d'écrire ce genre de phrases assassines. Julie en lit pourtant régulièrement des rubriques de faits divers. Oui, mais voilà, cette fois, c'est elle qui est au devant de l'affiche. Et c'est insupportable. L'infirmière est dans la chambre. Elle vient de changer encore une fois la perfusion. Du sang, cette fois-ci. Demain ou après-demain, lui annonce l'infirmière, nous pourrons vous montrer la toilette si vous souhaitez la faire vous-même.
Avec tous ces branchements?
Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si compliqué. Nous vous aiderons le temps qu'il faudra. Et puis personne n'est obligé.
Si, si, j'aimerais bien. Ça me permettrait de m'occuper un peu de lui, comme à la maison.
C'est important, en effet, surtout pour Ludovic. Et puis pour vous, bien sûr. Vous travaillez?
Oui, je suis caissière. J'ai encore une semaine de vacances.
Vous avez des horaires aménageables?
J'ai des horaires inqualifiables. J'aimerais pourtant être là quand il se réveillera.
C'est tellement imprévisible, mais vous savez, ça fait 23 ans que je travaille ici. Et j'en ai vu passer quand même un certain nombre. Je les soupçonne de choisir le bon moment et la bonne personne.
Ils se sont tous réveillés?
Non, bien sûr. Ce serait vous mentir que d'affirmer le contraire. Mais les enfants sont d'une énergie incroyable pour trouver la force de revenir. Donnez-lui cette envie-là.
Je ne sais pas comment.
La joie de vivre est un bon traitement.
J'aimerais la retrouver. Si vous étiez déjà un bon réservoir avant, vous verrez, elle reviendra vite.